Et dans les matins, la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Il y a comme un goût d'inachevé dans les révolutions en cours en Algérie et au Soudan.
Oui, un goût de trop peu qui a tendance ces derniers jours à s'associer à celui plus âcre des gaz lacrymogènes. Vous allez le voir à Khartoum. On est 4 jours après ce putsch de l'état-major militaire qui a chassé du pouvoir le dictateur Omar el-Béchir. Et pas question de rentrer sagement à la maison pour des dizaines de milliers de Soudanais. On lit dans le Soudan Tribune qu'il continue de camper devant les quartiers généraux de l'armée pour exiger encore et encore que les militaires confient immédiatement les commandes du pays à un gouvernement civil. Car depuis jeudi, c'est un conseil militaire qui s'est arrogé la responsabilité d'organiser la transition pour 2 ans avant des élections libres. Mais 2 ans, c'est long, nous dit le correspondant de la BBC au Soudan. Et le peuple soudanais, qui est mobilisé depuis 4 mois, ne compte pas attendre les bras croisés en regardant les caciques de l'armée orchestrer le retour au calme. Depuis vendredi, donc, ils ignorent consciencieusement les appels à la dispersion et ils accentuent la pression. Ça fonctionne à lire la liste des concessions que l'opposition soudanaise a obtenues hier dimanche après une première rencontre avec les militaires. Ces derniers se sont engagés à ne pas utiliser la force pour mettre fin au rassemblement. Ils ont promis de laisser les partis leaders de la contestation anti-Béchir choisir le prochain premier ministre. Et ils ont fait tomber des têtes hier soir, à commencer par celle du chef des services de renseignement. De Middle East Eye y voit un signe fort de renouvellement du pouvoir qui vient s'ajouter au tableau de chasse des manifestants, au scalp de Wad Ibn Aouf, l'ancien chef d'état-major soudanais qui vendredi a été forcé par la rue à quitter la tête du conseil militaire.
Et voilà qui fait dire au dessinateur algérien Dilem que les Soudanais mènent la course révolutionnaire par 2-1.
Et oui, parce qu'en Algérie, dans la poubelle dessinée par Dilem pour illustrer le dégagisme ambiant, on ne trouve pour le moment que le président Abdelaziz Bouteflika. Or, dans la poubelle soudanaise, il y a le président el-Béchir et le chef de l'armée. Façon de dire qu'à Alger, les militaires s'accrochent toujours au pouvoir et semblent bien entrer dans le deuxième temps répressif de la révolution. Les Algériens maintiennent la mobilisation face à un pouvoir qui s'entête. Voilà l'analyse qui se déploie en une du site Tout sur l'Algérie. Ce pouvoir qui, d'après l'éditorialiste Maklouf Meheni, est à court de solutions pour répondre à la crise politique, se laisse tenter par la manière forte. Vendredi dernier, pour la 8e grande journée de mobilisation, des barrages filtrants avaient été installés autour de la capitale pour empêcher l'accès des citoyens au centre-ville. Et là, dans le centre-ville, ceux qui étaient rassemblés pacifiquement ont subi une véritable répression. Une répression encore jamais vue en 2 mois de mobilisation. C'est là que l'on retrouve le goût des lacrymos que j'évoquais tout à l'heure. Des familles pacifiques ont été bousculées, blessées par des balles en caoutchouc. Une brutalité irresponsable de la police dont Tout sur l'Algérie nous livre la justification. Des casseurs auraient infiltré la place Maurice Audin. Pour El Watan, la chose est entendue, ces casseurs ce sont des baltagias, des provocateurs qui harcèlent la police et s'attaquent aux manifestants. Le quotidien de référence algérien sous-entend assez clairement que ces baltagias sont pilotés en sous-main par le pouvoir qui joue la carte du pourrissement. Alors côté manifestants, on s'organise pour montrer qu'on ne cédera pas à cette escalade de violence et ça se passe aussi en dehors d'Alger. Le dernier mode d'action qui est tendance chez les manifestants, c'est nous dit le HuffPost Algérie, c'est d'organiser des comités d'accueil plutôt musclés dans les villes où des ministres sont en déplacement officiel. Hier, c'est Mohamed Arkab, le ministre de l'énergie algérien, qui en a fait les frais. Il a été bloqué à l'aéroport de Tébessa par une foule hostile mais non violente. Décidément, le gouvernement de Nourdine Bédoui est indésirable auprès de son peuple, en conclut le journal en ligne de la diaspora Observe Algérie, pour qui chaque sortie sur le terrain des ministres devient une aventure périlleuse. Quant à moi, j'en conclus avec El Watan, avec cette autre facette de la répression qui s'installe. C'est tristement classique, quand on veut intimider et humilier, c'est aux femmes très actives depuis le début de la mobilisation que le pouvoir s'en prend. Parmi les militants interpellés samedi à Alger, 4 militantes ont été mises à l'écart dans un commissariat, contraintes à se déshabiller et à subir une fouille sommaire de leurs parties intimes. L'association RAGE, Rassemblement, Action et Jeunesse, va déposer plainte, nous dit El Watan, contre la police pour ce qu'elle qualifie de comportement d'un autre âge, dans le seul but de décourager les Algériennes qui revendiquent leur droit à manifester.
Et puis on termine avec les États-Unis, Camille, avec une question finalement assez angoissante. Et si Donald Trump était vraiment sérieux ?
Oui, question assez générale, mais qui s'applique depuis quelques jours sur une proposition bien particulière. En fin de semaine dernière, nous rappelle le site Politico, le président américain a évoqué l'idée de faire transférer des milliers d'immigrés illégaux vers ces villes que leurs maires démocrates ont érigées en villes sanctuaires et où donc ils ont ordonné à leur police de ne pas appliquer les consignes de contrôle et d'interpellation massive des supposés clandestins. La logique brandie par Trump, tout à fait dans son style, est explicitée par le très conservateur journal en ligne townhall.com. Puisque les démocrates sont si accueillants avec leurs beaux sentiments, on va les prendre au mot et leur envoyer ces migrants qu'ils aiment tant. Dans un premier temps, l'administration Trump a semblé écarter cette idée. Mais hier, il faut bien le dire, avec Politico, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee, a été forcée de s'aligner, déclarant que les services juridiques de la présidence étudient les moyens de rendre applicable la proposition présidentielle. Et voilà donc le New York Times et le Washington Post qui s'interrogent. Et si Donald Trump était vraiment sérieux avec cette histoire de ville sanctuaire? Les deux quotidiens tentent de se rassurer en pointant les oppositions de plus en plus évidentes au sein de la Maison-Blanche, des proches du président en particulier, qui essayent de freiner les propositions migratoires de Donald Trump. Et puis finalement, décrypte James Doney, dans le Washington Post, ce qui compte, on l'a bien compris, dans cette présidence, ce n'est pas ce qu'on fait, mais ce qu'on dit que l'on fait, confère l'exemple du mur mexicain. Et quant à la question de pourquoi on le dit, il y a là deux hypothèses dans la presse américaine. Pour The Hill, Trump s'en prend aux démocrates et à leur ville sanctuelle pour faire diversion, alors que la version détaillée du rapport d'enquête russe du procureur Mueller doit être rendue publique cette semaine. Pour le Washington Post, enfin, l'accent remis sur la sécurité intérieure permet surtout à Donald Trump de remobiliser son électorat et ça semble marcher. Son comité de campagne pour 2020 totalise déjà 30 millions de dollars de dons. 30 millions en 3 mois, c'est un départ très fort. Les dons de petits donateurs en particulier, nous dit-on, ont bondi depuis que le président s'est remis à parler d'immigration.
Merci Camille Magnard. Il est 7h42 sur France Culture.